réunion que nous avions, dont nous avions convenu qu'elle se passerait au mois de septembre, bon, même si on peut comprendre à un moment donné que ça aurait peut-être mieux été juste après le conseil de communauté, celui-ci avait eu lieu le 11 juillet, chacun d'entre nous a pris quelques temps de vacances, et puis le temps qu'on se remette en place au mois de septembre fait que, bon, on est avant la fin septembre, donc on est bien dans les délais. Donc merci de participer à cette réunion, dont le but est de vous expliquer pourquoi le conseil de communauté a pris une position sur la DSP, pourquoi, comment on a pris cette décision, et surtout, comment on a tenu compte de vos remarques, de ce que vous nous aviez fait part lors de la dernière réunion, le 31 mars, le samedi 31 mars, où il y avait eu la fameuse restitution. Donc je vais peut-être revenir très brièvement, parce que vous la connaissez aussi bien que moi. Vous avez passé quelques samedis à l'hôtel de communauté, donc vous vous en rappelez. Donc on avait commencé par une première séance de formation le 11 février. Ensuite, il y avait eu une séance d'approfondissement où beaucoup de choses avaient été apprises par vous et par les élus qui étaient présents le 10 mars. Ensuite, rédaction de l'avis le 24 mars, confrontation des avis le 30 mars et restitution publique le 31 mars. Vous voyez que le calendrier était extrêmement serré, mais les délais qui nous étaient impartis étaient ceux-là. C'est une nouvelle façon de faire de la concertation qu'on a mis en place pour ce sujet des transports, sujet important, hein. C'est pas le même mode qui avait été pris pour l'eau, par exemple, mais nous sommes aussi là avec le C2D pour examiner, expérimenter d'autres façons de faire de la concertation. Ce qui était important, c'est qu'il y ait trois panels, panel citoyen, panel association et panel élu, qui puissent, pendant toutes ces périodes de ces samedis, se confronter et avoir à un moment donné quelques avis. Vous nous avez produit un certain nombre de documents qui nous ont bien aidés dans la prise de notre décision. Et l'élément fondateur de ces documents, je crois qu'il est derrière moi, ce sont les fameux critères qui nous ont servi, et là c'est important pour le travail que vous avez fait, qui nous ont servi de feuille de route pendant toutes les réunions que le comité de suivi a eu à faire juste après le mois de mars, hein, puisque ça a demandé des après-midi de travail pour prendre en compte ces critères. Alors, un certain nombre de ces critères, vous rappelez, étaient communs aux trois jurys, et on aurait pu s'arrêter là, en disant, mais on s'arrête effectivement à ceux qui sont communs aux trois, mais non, on est allé jusqu'au bout et on a pris l'intégralité des 20 critères, même certains étaient retenus que par un seul des jurys. Mais c'est pas grave, hein, ça demandait d'être retenu. Et nous avons cherché à répondre à chacun de ces critères pour voir quels étaient les modes de gestion les plus performants. Avec la régie, autonome ou autre, la DSP, et aussi, parce que ça avait été évoqué, c'est un mode un petit peu plus nouveau qui est la SPL, qui a été mise en place à Saumur, je crois, hein. C'est cette ville qui a été. On est allé aussi loin dans ce domaine-là pour examiner quels étaient, sur chacun des critères ou des thématiques, quelles étaient la meilleure des réponses qui pouvaient être apportées. Alors, bien évidemment, chacun avec ses sensibilités, chacun avec sa façon de voir les choses, a répondu à ces différentes questions. Au-delà, moi je tiens également à remercier les services communautaires qui ont aussi beaucoup travaillé. Et à la lumière de ces réponses que l'on a pu avoir, il existe aujourd'hui un tableau sur lequel tout est repris et par scène, nous avons été amenés à prendre une décision. Donc le président de la communauté urbaine de Bordeaux, puisque c'est son rôle, hein, est amené à prendre une décision, l'a proposé au conseil de communauté qui a été ratifié, mais avant d'aller jusqu'à cette décision, on a quand même examiné et argumenté pourquoi le choix a été fait sur la DSP, avec deux possibilités, une DSP courte de 5 ans ou une DSP plus longue de 8 ans. Pourquoi 8 ans? Tout simplement parce qu'on donnera la possibilité aux délégataires de nous proposer des investissements. Et on sait que quand il y a des investissements, eh bien, il faut que le délai soit un petit peu plus long, donc il est de 8 ans. Ce qui a été important dans notre décision, c'est que après avoir examiné tous les modes de gestion possibles, à la lumière également de l'existant, c'est-à-dire du système de transport actuel. À la lumière aussi, il y a eu un travail important qui a été fait à la communauté urbaine sur ce que ça serait au bout de ce contrat, et on se prolonge là après 2020, hein, avec les objectifs du plan climat, avec les objectifs que la communauté urbaine s'est donné pour que la part modale des piétons, que la part modale du vélo, pour que la part modale des transports en commun soit plus importante. Quelles seraient les fréquentations à ce moment-là? Et on s'aperçoit que si les objectifs du plan climat sont atteints, c'est de nombreux bus supplémentaires qui seront nécessaires, c'est de nombreux rames de tramway supplémentaires qui seraient nécessaires, et c'est de nombreux, on le souhaite, kilomètres de sites propres qui seront également nécessaires. Et tout, à la lumière de tout ça, eh bien, on a pu décider, ça n'est pas allé de soi d'ailleurs, il a fallu qu'on discute beaucoup, aller plutôt vers une gestion déléguée, avec des garde-fous, bien évidemment, c'est ça qui est important, notamment sur, je l'ai dit tout à l'heure, la charge de certains investissements, si c'est possible. Également, le contrôle. Nous avons beaucoup insisté sur ce sujet, parce qu'aujourd'hui, l'inspection générale de la communauté urbaine, qui procède à un contrôle permanent de notre délégataire, comme certainement aucun délégataire n'a été, au moins ici dans l'agglomération bordelaise, contrôlé. Il y a aujourd'hui un vrai contrôle sur les comptes, sur ce que nous est dit dans les rapports annuels, que ce soit du délégant. Et aussi, et c'est là qu'on a sans doute quelques efforts à faire, le contrôle du patrimoine. Je vous rappelle que nous sommes propriétaires aujourd'hui du matériel roulant. Nous le confions au délégataire en début de contrat. Il faut qu'il soit à la fin du contrat, au moins en aussi bon état, si ce n'est l'usure normale du matériel. Et là, je serais tenté de dire que ce contrôle a besoin d'être réaffirmé. Il doit l'être également sur les bâtiments. Je rappelle que la communauté urbaine est propriétaire des dépôts, est propriétaire d'un certain nombre de bureaux, un certain nombre de choses. Là aussi, un contrôle patrimonial doit être fait. Et à la fin de cette délégation, nous procéderons à un contrôle du patrimoine. Nous rendrons au futur délégataire ce patrimoine et on aura un contrôle plus important quand on sait que notre patrimoine immobilier est assez ancien. Dépôt de l'Escure ou le dépôt de l'Allée des Pins sont des bâtiments centenaires pour certains, alors que sur le lac, c'est quand même plus récent, mais ça ne veut pas dire que, bon, il y a des mises aux normes qui sont nécessaires, donc on a un contrôle important qui doit être fait là-dessus. On s'est aussi appuyé sur ce qu'on appelle l'effet groupe. Lorsqu'on a affaire à un délégataire, on sait que quelques synergies qui peuvent exister sur un certain nombre de possibilités. Alors, on pense au marketing, on pense à un certain nombre de choses. Il y a un système très simple, la recherche sur l'amélioration, la connaissance du ferroviaire, qui n'est pas négligeable quand on sait qu'on fait circuler des bus et des tramways. Cette connaissance, nous ne l'avons pas à la communauté urbaine parce que nous avons délégué cette gestion depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc il n'existe pas au sein de la communauté urbaine aujourd'hui cette connaissance pour gérer ces personnels. Alors ces personnels nombreux, plus de 2500 agents, ça reviendrait à doubler les effectifs de la communauté urbaine aujourd'hui, ce qui n'est pas sans problématique de gestion de personnel. Je veux dire, aujourd'hui, pour ceux qui travaillent aux ressources humaines de cette collectivité, c'est déjà pas très simple. Donc là aussi, ça a été un élément. Prenons un exemple tout bête, une régie qui aurait à tourner entre elles devrait faire appel à des cabinet extérieur ou bien à embaucher de manière importante et surtout au début, parce qu'au début il faut faire démarrer, poserait dans un premier temps au moins une difficulté. On s'est également appuyé sur ça. Le risque social, il n'est pas neutre non plus quand on a à gérer du personnel qui n'est pas toujours très facile, on va pas aussi se dire les choses. Il y avait également un coût induit. Quand on passe d'une transition d'une délégation de service public à une régie, il y a des coûts induits qui ne sont pas négligeables. Ces problématiques financières ont été aussi examinées avec d'autres problématiques, celle de la TVA, avec d'autres problématiques également qui étaient l'impôt sur les sociétés, suivant si l'on prenait un système ou autre. On s'est quand même aperçu en regardant qu'on ne pouvait pas gagner sur tous les tableaux. C'est vrai pour tous les contribuables de France, c'est vrai également pour la communauté urbaine. Lorsqu'on prend un système où on évite l'impôt sur les sociétés, on a une taxe qui vient s'ajouter sur le personnel. Si on ne prend pas cette taxe sur le personnel, on a l'impôt sur les sociétés. Donc voilà. Par contre, il existe après un flou aujourd'hui sur la TVA que nous n'avons pas réussi à résoudre. Mais quel que soit le mode de gestion, d'ailleurs, ce flou devra être géré. Voilà. Nous avons également souhaité que dans ce contrat, la communauté urbaine a quand même un rôle important, qu'il y ait une délégation de service public ou une régie. La première chose, c'est une définition de la politique et de la stratégie de développement du réseau. Ça, c'est la communauté urbaine qui l'a et qui le conservera. C'est pas négligeable, le choix de savoir vers où on se développe. À un moment où on est en train de discuter du SDODM. La stratégie de développement des infrastructures. Nous serons maîtres de savoir où on souhaitera faire des couloirs de bus, des extensions de réseau, un troisième dépôt qui va être indispensable quand on sait la progression. Le renouvellement et la pérennité du patrimoine, je le disais tout à l'heure, nous continuerons à être propriétaires de notre matériel, ça veut dire que on continuera à acheter le matériel, même si on sait qu'il y a un certain nombre de véhicules qui sont affrétés par le délégataire. Point extrêmement important à nos yeux, qui a fait l'objet aussi de débats entre nous, la poursuite des principes de la politique tarifaire. Aujourd'hui, qu'on soit en régie ou en délégation de service public, la communauté urbaine continuera à fixer elle-même ses tarifs et à prendre à des moments donnés des décisions. Je pense à un exemple frappant. Le président de la communauté a souhaité que nous ne touchions plus le tarif du pass jeune. Alors, c'est pas neutre, hein. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'augmentation du pass jeune, ni en 2013, ni en 2014, bon, peut-être même en 2015, parce que le temps qu'on vote les tarifs, etc. C'est quand même, ne l'oublions pas, quasiment 80% des utilisateurs. C'est pas neutre. Nous sommes en pleine réflexion sur notre tarification sociale. Aujourd'hui, ou est-ce que le quotient familial sera un élément qui sera pris en compte ou pas? Enfin, il y a des discussions. Donc nous continuerons à fixer notre politique tarifaire, notamment, par exemple, on a choisi depuis plusieurs années de ne pas bouger la ticarte à l'unité, qui fait aujourd'hui qu'elle est à 1,40€, alors que la majorité des réseaux de France est à 1,50€ ou 1,60€. La ticarte aujourd'hui est à 1,40€ depuis plusieurs années, quand on sait que les prix ont considérablement augmenté dans la période où ça n'a pas bougé. Et enfin, la définition des objectifs en termes de service à l'usager. Qui sont indiqués dans le contrat. Qu'est-ce qui est arrivé sur cette DSP? On a vu arriver des nouveautés. Le V-Cube, qui a été quand même quelque chose qui progresse. Hein. Regardez, aujourd'hui, on est à plus 10% en progression de V-Cube. Le mois d'août nous a donné des chiffres extraordinaires. Bon, la météo était favorable avec nous. Demain, on mettra certainement... la première chose, c'est l'autopartage. Le covoiturage, il faut qu'on avance sur ces sujets-là. Ce qui a été également intégré à notre délégation de services publics, et tant mieux, c'est Mobibus. Le système des PMR, aujourd'hui, il y a plus de synergie entre ces services-là, ce qui n'était pas le cas sur la précédente délégation. On avait deux délégations. Aujourd'hui, c'est intégré. C'est quand même beaucoup plus efficace, et on le voit d'ailleurs au quotidien. Voilà, donc on garde quand même, malgré qu'on se soit dirigé vers une délégation de services publics, on conserve quand même un certain nombre de prérogatives. On reste, et c'est le terme juridique, autorité organisatrice de transport. Et ça perdurera. Voilà. On vous l'a dit, hein, quand on s'était vu au mois de mars, mais au nom du conseil de communauté, réuni d'ailleurs, moi je tiens à vous quand même vous remercier d'avoir passé des samedis à réfléchir sur un sujet qui n'était pas forcément un sujet de prédilection pour vous, hein, que ce soit... Alors les élus, je les mets un peu à part, parce que c'est un peu leur boulot, je serais tenté de dire, bon voilà. Mais le jury citoyen, ben, c'était quand même un peu nouveau, par rapport à venir, pendant plusieurs samedis, venir s'exprimer sur un sujet, même si certains d'entre vous étaient certainement des utilisateurs individuels de transport en commun, mais là on vous demandait beaucoup plus. Se projeter sur l'avenir, et surtout les associations aussi, qui sont venues. Alors certaines, on sait que le transport est leur sujet de prédilection, On les voit souvent à la CCSPL, mais d'autres vont au-delà de ce sujet-là et sont venus nous apporter leur contribution, souvent avec des éléments pertinents. Voilà. Je peux vous affirmer, et c'est pas pour faire la brosse à reluire ou autre, sans cette forme de concertation, nous n'aurions pas eu ces 20 critères et nous ne serions pas comité de suivi, service, élu, nous ne nous serions pas interrogés à de nombreuses reprises comme on l'a fait si nous n'avions pas eu cette étape précédente de la concertation. On aurait pris une délibération en conseil de communauté, on aurait prolongé la DSP, enfin on aurait dit on prend une autre DSP, on continue. Là on s'est vraiment interrogé. Je peux vous dire qu'il y a eu des débats extrêmement fructueux et grâce à ces 20 critères, grâce au travail qui avait été le vôtre, on s'est interrogé, on s'est posé des questions, on a pris le temps. De mars, ça a été voté que le 11 juillet. Ça ne s'est pas fait en 15 jours, 3 semaines. Ça a pris un peu de temps. Et ça, ça a été nécessaire. Cette nouvelle forme de concertation qui n'a pas été sans doute parfaite, comme tout mode qui est choisi. Donc c'est vraiment important pour nous d'avoir eu ce retour par rapport à ça. Ce système devra évoluer. On s'est rencontré avec les garants il y a quelques jours, où on a essayé de voir qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché, de façon à ce qu'on puisse améliorer le système, de façon que ça fonctionne bien. Je vois la présidente du C2D qui arrive, donc je ne peux qu'associer le C2D à tout ce travail qui a été fait. C'est une entrée remarquée, madame la présidente, vous voyez. Donc voilà, là aussi le C2D nous a accompagnés, nous a amenés sur la réussite de ce projet. Voilà. Soyez quelque part, allez, je vais peut-être employer un mot fort, mais soyez quelque part fiers du travail que vous avez fait. Il a contribué à ce qu'on puisse avoir certainement une préparation d'un cahier des charges qui sera plus exigeant que ce qu'il aurait pu être si les élus avaient réfléchi entre eux. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faudra faire perdurer. La délégation, elle ne dure pas 20 ans, hein. C'est 5 ou 8 ans. Ça va vite, hein, 5 ou 8 ans, je vous le dis, parce qu'il faudra en rediscuter avant la fin. On aura peut-être ou peut-être pas d'ailleurs l'occasion de se retrouver dans ces conditions, dans un débat futur. Voilà, en tout cas, voilà les premiers mots que je souhaitais vous dire. Mais je pense que l'idéal dans cette opération, c'est qu'on ait un débat. Hein, voilà, je ne suis pas en train de vous dire que tout a été parfait, que voilà, je pense qu'il y a des frustrations qui sont nées peut-être à un moment donné. On est là pour les corriger, on est là pour écouter et on est là surtout pour vous entendre. En tout cas, merci de votre travail.
Bien, merci Monsieur Duprat. Bien, je vais faire le bâton de parole, ou du moins vous le passer. Vous remercier aussi d'être tous là présents ce soir et de pouvoir, je dirais, avoir ce temps de débriefing de manière à ce que la CUB, d'une manière générale, puisse avoir un meilleur service au public et intègre toute cette démarche de concertation aussi sur d'autres sujets. Ils sont assez nombreux, les réunions publiques ne manquent pas. Voilà. vous dire que cette séance est enregistré, hein, puisque nous suivons les préconisations de nos garants pour garder un meilleur verbatim et nous aider à en faire un compte-rendu le plus fidèle possible, que j'essaierai de mettre en ligne assez rapidement sur participationlacube.fr, que maintenant vous connaissez. Voilà. Et y a-t-il déjà une première série de questions, d'interrogations ou de... que vous souhaitez faire, madame? Je vous propose de vous présenter. Merci.
Madame Lyon de la CLCV. Moi, je suis allée aux réunions, justement, où on a voté la délégation de services publics. J'étais fort déçue, bien évidemment. Pas bien évidemment, mais je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que, en fait, nous avons quand même eu quatre samedis de réunions où nous avions effectivement beaucoup avancé. Nous étions beaucoup investis pour avoir discuté des questions profondément, pour en arriver à une réunion où la plupart des gens qui étaient là, je ne sais pas s'ils avaient assisté à toutes nos réunions, mais apparemment... ça semblait douteux, on s'est précipité pour ne rien changer. En fait, c'est ça. Alors, quand on dit qu'on interroge les citoyens, moi, je suis dans la défense des consommateurs. Je vois qu'on s'est précipité pour ne rien changer. Alors, vous parlez de la délégation de services publics. Eh bien, on continue en délégation de services publics. Même si, par ailleurs, je dois dire, pour beaucoup voyager et aller dans d'autres villes, Bordeaux est effectivement en retard au niveau des transports. Vraiment, quand on compare à beaucoup d'autres villes, bon, pour des raisons qui sont explicables, hein, d'ailleurs, parce qu'on a été longtemps sur cette question de métro, et c'est vrai que ça, je pense que ça fait perdre du temps. Mais actuellement, c'est toujours pas au point, parce que si on commence à couvrir un petit peu la Bordeaux, le pourtour de Bordeaux pose problème, quand même. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont sans possibilité de transport. Alors moi, quand je vois qu'on fait une réunion et puis que au final, il y a deux personnes qui vont voter contre qui vont voter pour la régie, tout le reste vote pour la délégation de services publics, alors que par ailleurs, il y a des délégations de services publics qui marchent fort bien. De même qu'on n'a pas abordé, vous dites qu'on a tout abordé, la question même de la gratuité. Il y a des villes, aller à Aubagne, aller à... Il y a des villes qui font effectivement l'effort de... Alors, c'est peut-être des petites villes qui font l'effort de la gratuité. Bon, même si on n'en est pas là. Mais on en est à une tarification, justement, qui est... Alors, on peut dire que la tarification ne va pas bouger d'ici les 2-3 années, mais elle était déjà bien élevée. Bien élevée. Et quand on nous fait des annonces faramineuses... Alors, je reprends parce que je me suis accrochée avec vous quand on a voté sur cette question de... On a inventé un ticket 0,8 ans, 5,8 ans, là, à 10 euros. Avant, avant, ils ne payaient pas les enfants. Mais bon, maintenant, voilà. Alors, pour les familles, on ne les loupe pas. Quant aux histoires de toutes les tarifications, j'aurais aimé que nous consulte sur les tarifications seniors, juniors, etc. On n'a fait que, dans cette réunion, dire que c'était bizarrement, les gens prenaient le ticket à l'unité. Pourquoi ? Parce que vu ce qui se passe à l'heure actuelle, pour le travail, mais pour les réunions, pour des tas de choses comme ça, le ticket à la semaine, ça va pas. Le ticket à la journée, ça va pas. Et quant à avoir ce qu'on m'a dit, mais attendez, votre entreprise paye la moitié du trajet. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont au chômage, qui sont en recherche d'emploi, qui sont en changement d'emploi. Et eux, ben, effectivement, ça correspond pas vraiment à l'investissement qu'ils peuvent faire. Alors moi, je suis assez déçue. Et comme vous dites, on interroge le citoyen, je pense qu'en fait, on fait semblant d'interroger le citoyen. C'est ma position et je le défendrai à la CLCV aussi.
Merci. Alors, pour préciser, parce qu'un certain nombre de gens qui sont dans la salle ne vont pas comprendre, c'est que vous évoquez, madame, non pas les réunions sur la concertation, mais la réunion de la CCSPL, Commission consultative des services publics locaux. Voilà. Donc, je voudrais quand même préciser, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu faire en termes de concertation sur le sujet. Voilà. Donc déjà, ce n'est pas les mêmes réunions. Premier point. La CCSPL, elle est composée de gens. Certes, certains sont membres des deux, puisque ça paraissait normal, puisque les associations sont aussi là. Elle était là pour émettre un avis par rapport à la délégation de services publics ou à la régie. Et vous l'avez précisé, les faits sont têtus, mais cette CCSPL s'est réunie, elle s'est prononcée à une très grande majorité pour... la DSP. Voilà, moi je constate, hein, voilà. Après, moi je veux bien qu'on dise des choses, hein. Moi je suis tout à fait respectueux des avis de tout le monde. Ce qu'il faut dire à un moment donné est de pas laisser croire aux gens n'importe quoi. Vous venez de dire aux gens que ce qu'on avait mis en place pour les 6 à 10 ans, c'était rien du tout parce que c'était gratuit. Non, mais c'est faux, madame. Jusqu'à présent, madame, non mais laissez-moi parler, je vous ai écouté. Jusqu'à présent, les enfants de 0 à 5 ans ne payent pas le bus. Ils ne le payent toujours pas. Par contre, jusqu'à avant le 1er juillet, ils devaient payer, de 6 à 10 ans, au minimum 16 euros par mois. C'était le pass jeune à 16 euros par mois. On a considéré que pour certains, c'était cher pour qu'ils puissent accompagner leurs parents. Et depuis le 1er juillet, c'est plus 16 euros par mois qu'ils payent, c'est 10. Alors je veux bien que vous essayiez de faire croire que ça a augmenté, mais là aussi, les chiffres, hein, il y a un ancien vice-président qui disait Les chiffres sont des petits êtres qu'on essaie de torturer dans tous les sens pour leur faire dire ce que l'on veut. Mais les gens, ils payent aujourd'hui 10 euros, ils payaient 16 auparavant. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas essayer de faire croire aux gens ce qui n'est pas vrai. Moi, je pense qu'à un moment donné, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut avoir un avis, que vous ayez une déception par rapport à ce qui s'est passé, que l'avis que vous aviez défendu n'ait pas été retenu, c'est légitime. Bien sûr que c'est légitime. On passe tous notre vie, à un moment donné, à ne pas avoir le retour de ce qu'on a pu espérer. Hein. Je sais si chacun d'entre nous vote dans des diverses collectivités, mairies ou communautés urbaines ici, il nous arrive de temps en temps d'avoir des choses qui ne nous conviennent pas forcément, mais par intérêt communautaire, on vote. Voilà. Et c'est comme ça. Et chacun fait d'ailleurs des efforts, quel que soit son appartenance. Mais voilà, moi ce qui est important, c'est que, je le redis, j'en profite puisque Laure Curval nous a rejoint, je la remercie parce que les conditions de circulation sont très difficiles ce soir. Mais quand le plan climat sera approuvé, il y aura plus de bus transport en commun, ça ira mieux, Laure.
Non, mais là, c'était
Voilà. Non, mais simplement pour dire encore une fois, je dis devant Laure, parce que je pense que c'est important et je voudrais que vous en soyez convaincus. Sans ce travail de concertation qui a été fait auparavant, nous n'aurions pas agi, nous, les élus de la communauté urbaine, dans les mêmes conditions. Ça, je peux vous le dire. Ça se serait passé en commission de transport. On aurait décidé de prolonger la DSP. Le président aurait pris sa décision. Là, on s'est quand même posé. Et quand vous dites dans la précipitation, excusez-moi, mais entre le 31 mars et le 11 juillet, c'est tout sauf de la précipitation. On a pris le temps suffisant et nécessaire pour le faire. On y a passé, nous aussi, des moments, mais c'est normal, c'est notre boulot. Pas critiquer, on y va pour ça. Mais surtout les services communautaires, je ne pense pas qu'ils puissent dire qu'ils ont fait le travail dans la précipitation. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de boulot qui a été fait, pas mal de recherches par rapport notamment au SPL, où on est allé chercher qu'est-ce qui se passait à Saumur, qu'est-ce qui se passait ailleurs, pour voir comment ça pouvait se passer. Ça, c'était important de répondre. Allez. Laure, peut-être tu veux dire un petit mot ?
Ouais. Oui, simplement pour vous dire, je suis désolée, effectivement, il y a les conditions de circulation, mais en fait, je travaille aussi et je ne pouvais pas lâcher mes étudiants plus tôt. Voilà. Donc, le temps d'arrivée du campus, c'est quand même le temps qu'il m'a fallu. Et comme je ne suis pas mouillée, visiblement, vous voyez bien qu'effectivement, je n'ai pas vertueusement pédalé sous la pluie. Je le reconnais. Voilà. Moi, je pense que vous avez déjà de toute façon évoqué tout ce qui était le rappel des étapes de la concertation, qui de toute façon est connue de tout le monde ici. Voilà, moi, je remercie encore une fois tous ceux qui ont participé dans les différents panels, hein, les citoyens usagers, les élus, voilà. Et également, bien entendu, les associations. Et pour en amont de cette réunion, nous avons déjà eu quand même l'occasion, entre élus, services de la CUB, conseil du développement durable, de reprendre la réflexion avec aussi les garants. Et bien sûr, on voit qu'il y a des points d'amélioration, y compris sur notre façon de concerter. Moi, c'est plutôt sur ce point-là que je mets en avant, puisque je suis l'élu chargé de la concertation. Mais on voit aussi que sur le contenu, ça n'a pas été juste, je cherche un terme approprié, bon, rustine, on va rester peut-être dans le type d'image liée pour les transports. C'est pas juste quelque chose qu'on est venu plaquer. C'est, même si la décision, ce qui ressort, la décision elle-même, le vote de la DSP peut être incompris et éloigné de ce que certains peuvent souhaiter, y compris dans les groupes politiques. Hein, il y a des points de vue divers et variés. Après, ça, c'est le vote. Mais je crois que malgré tout, c'est une décision qu'on a prise dans des conditions différentes, de manière différente, et en mettant bien des jalons pour l'avenir. Avec la difficulté pour nous qu'on est à ce moment-là dans un temps long pour améliorer les transports et répondre vraiment aux besoins de tout le monde, et alors que vous venez de travailler de manière intense sur un temps qui était très court et qui a exigé beaucoup d'efforts. Voilà, donc ça c'était, j'ai retenu des éléments dans ce qu'on a discuté, hein, création d'un espace d'échange, que du coup le dispositif a obligé élus et techniciens à débattre autrement, à aborder les questions autrement, donc je voudrais simplement rajouter cela, parce que je pense que Christophe Duprat a déjà beaucoup insisté là-dessus, mais ça nous a quand même amené à décider de toute façon forcément différente. Donc c'est pas quand même une concertation qui était juste comme ça pour essayer un dispositif innovant.
Allez, les questions.
Je voudrais intervenir sur deux points. Le premier, j'ai cru comprendre un moment que vous parliez d'une DSP plus longue. Je trouve qu'il existe un paradoxe. Je suis Dominique Algorski du GIHP, l'association de personnes handicapées. Ce premier thème de cette question est de dire, vous avez dû sentir, parce que moi je l'ai senti, je n'ai pas été présente tout le temps, que les associations, les usagers, demandaient aux politiques de reprendre le pouvoir. Vous avez parlé de contrôle tout à l'heure, mais vous ne nous avez pas explicité en quoi cette nouvelle DSP serait plus pertinente en termes de contrôle face à cette énorme machine que vous relâchez à partir du moment où elle est attribuée. Mais il me semble à moi que 8 ans, c'est long si on considère que le délai met une pression sur les épaules du délégataire et donc induit ainsi davantage de pouvoir, de puissance. Et la puissance des politiques, c'est aussi celle des usagers. Vous avez dit, oui, mais c'est parce que ils auront le temps de faire des investissements. Vous avez dit, mais de toute façon, les dépôts sont à la cube, les matériels, mais grand Dieu, sur quoi ils vont investir? Ma deuxième question, vous vous en doutez, porte sur le transport adapté. Vous reconnaîtrez avec nous que Mobibus doit perdurer en tant que transport adapté autonome des transports en commun, comme s'adressant parfois à un public qui ne prendra pas, quoi qu'il arrive, les transports en commun. Pour des tas de raisons, en quoi est-ce que cette nouvelle DSP va nous apporter un dimensionnement plus adapté à nos besoins? C'est sur quoi nous nous battons. Et une écoute meilleure de votre part. Ne trouvons pas notre place en CCSPL. Les sujets traitant du handicap, que ce soit l'accessibilité des transports, qui pourtant sont un sujet fabuleux d'éveil pour tous, et le fonctionnement de Mobibus, trouvent très peu de place. Les questions ne sont pas entendues. Les discussions ne s'embrayent pas. En quoi est-ce que cette nouvelle DSP peut induire une meilleure écoute et une meilleure dimension qui correspondrait mieux aux besoins, qui sont ceux des personnes handicapées en transport adapté et aménagement des transports en commun?
Alors, je vais essayer de répondre à vos questions. Tout d'abord, pourquoi 5 ans, pourquoi 8 ans? Nous étions sur une délégation de service public de 5 ans et nous étions un petit peu peu nombreux en France à avoir une délégation de public, de service public de 5 ans, puisque la moyenne en France, elle se situe entre 7 ou 8 ans, avec ou sans investissement. D'abord parce que, vous le savez pertinemment, il faut du temps pour qu'un réseau puisse commencer à produire ses effets positifs. Vous avez vu, nous avons le nouveau délégataire, donc Keolis, a pris son service, si je puis dire, le 1er mai 2009. Le réseau a été mis en place que le 22 février 2010, donc vous voyez qu'il y a déjà du temps qui est passé, et que nous avons, on va se dire très clairement, que l'année 2012 est peut-être la première année dont on aura le plein entier succès de ce réseau. Donc vous voyez, mai 2009, décembre 2012, il faut du temps pour pouvoir arriver à faire prendre de nouvelles habitudes, et on est loin d'être arrivé à la plénitude que l'on peut. Parce que dans les transports, ce sont des habitudes qui sont longues à faire prendre aux gens. Il faut répéter les choses, etc., etc. Donc on peut se poser légitimement la question, est-ce que 5 ans, c'est pas court pour justement se donner les vrais moyens de réussir, surtout quand on met en place un nouveau réseau? Mais on est quand même resté sur cette possibilité de 5 ans. Alors quand on parle d'investissement, et vous avez très justement dit que, puisque la communauté fait les principaux investissements, le matériel roulant, les bâtiments, eh bien il y a des petits investissements qui peuvent être réalisés par le délégataire. Je vais vous donner un exemple très concret et très simple. Lorsque l'on a mis en place la Liane 3+, eh bien il a fallu faire l'acquisition de boîtiers destinés à faire passer les feux au vert. Le temps que la communauté urbaine, avec sa complexité des marchés publics et le fait que dans le budget, c'était pas forcément inscrit, Ça nous aurait demandé des mois et des mois pour mettre en place cet achat, alors qu'il s'agissait d'acheter 20 petites cellules que l'on met à l'avant des autobus, une somme dérisoire. Eh bien, c'est le délégataire qui a fait l'investissement. Bon, après, ça se retrouve, hein, bien sûr, dans ce qu'on aura à régler dans les avenants, etc. Mais c'est le délégataire qui l'a fait. Et là, on a pu mettre en place en quelques semaines, allez, 2 mois, cet investissement très minime, mais qui permet de donner. On peut imaginer que, prenons un exemple très simple, on décide d'augmenter d'une manière importante le nombre de V-cubes. Parce que on se dit, voilà, on veut mettre un coup de pouce dans le cadre du plan vélo, on y va, etc. Dans ce plan vélo, c'est pas inscrit, on décide de faire par exemple 50 stations de V-cubes d'un coup. Et bien là, le délégataire aura la possibilité d'investir de ces 50 stations, lui il les fera, il fera appel à des entreprises, ça sera plus souple, ça sera plus rapide, voilà. On peut imaginer que l'achat de 2 ou 3 véhicules minibus électriques peut rentrer dans ce cadre-là. On décide d'expérimenter une navette dans une commune, à l'intérieur d'une commune, parce qu'on sent que c'est peut-être nécessaire. Il nous faut que 2 véhicules. Le temps que la communauté urbaine mette en place son marché pour l'achat de 2 véhicules, je vous laisse imaginer que c'est quand même compliqué. Là, le délégataire peut le faire. Voilà. Ce sont des petits investissements à la marge qui vont être. Et bien évidemment, le modèle économique fait que si ces investissements sont faits, il faut laisser un petit peu plus de temps pour absorber ça. Concernant Mobibus, aujourd'hui, on est tous d'accord, il y a un certain nombre de choses chez Mobibus qui fonctionnent bien et d'autres qui fonctionnent moins bien. C'est pour ça qu'on a mis en place au cours du semestre dernier un certain nombre de réunions avec des thèmes sur lesquels on a essayé de faire avancer les choses. Des avancées ont été obtenues. Ça paraît tout bête, mais il va y avoir, je ne sais pas si c'est en place ou c'est dans quelques jours que ça va être en place, un numéro vert. Déjà, si on appelle à partir d'un poste fixe, eh bien le numéro sera gratuit, 0800, quelque chose. Pardon ? Oui, ça ne s'appelle pas depuis le portable, c'est depuis un numéro fixe. Voilà. Bon. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, on a rajouté 2 services supplémentaires l'après-midi, on a doublé les soirées. Il y a aujourd'hui, j'ai fait le point un petit peu, c'est pas l'idéal, c'est pas parfait, mais on a avancé là-dessus. On a là aussi conservé une tarification qui n'a pas bougé depuis plusieurs années, puisque c'est une transformation du franc en euros. On est toujours sur 2,52 €, je crois, de mémoire. On vous écoute. On essaie d'améliorer les choses. On a fait des investissements importants dans le matériel. Il y a aujourd'hui des véhicules qui sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus sécurisants pour l'accroche des sièges notamment. On essaie aussi de faire des efforts là-dessus. Ça demandera encore des discussions, encore des améliorations. Voilà. On a constaté qu'un certain nombre de personnes qui le peuvent, tout le monde ne peut pas, on est bien d'accord, ce service est nécessaire, mais pour ceux qui le peuvent, certains ont expérimenté et ont adopté le passage par TBC, par le réseau dit entre guillemets normal. Et certains l'ont fait non pas parce qu'ils étaient contraints, mais parce qu'ils avaient envie, grâce à un sondage qu'on a fait. Alors là, on a d'autre part du travail à faire sur les véhicules. Nous sommes en train d'équiper tous nos véhicules pour qu'ils soient accessibles. On l'a dit, en 2014, l'intégralité du parc de bus sera accessible. Le tramway, il est déjà. Là, on est en train de le faire. Tout cet été, ça a été le cas. Les véhicules que nous achetons neufs, qui vont être livrés les premiers dans quelques semaines, auront 2 unités fauteuil roulant à l'intérieur et non pas 1. Ça aussi, c'est un progrès. Un couple qui se déplace en fauteuil roulant jusqu'à présent ne pouvait pas monter dans le bus parce qu'il n'y avait qu'une place. Ça nous a paru, ça aussi, on aurait pu y penser avant, très, très franchement. Bon, là, on sait que le nouveau véhicule qu'on achète, il y aura ces 2 places de fauteuil roulant. Et surtout, j'ai mobilisé les directions territoriales pour que l'on puisse, avec urgence, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'arrêts accessibles, et surtout, et c'est pas vous qui me contredirez, que les cheminements soit également accessible pour arriver jusqu'à ces arrêts. Alors qu'on commence, parce que le plan sera long, je ne cache pas que mettre l'accessibilité entière de notre réseau est très très, ça demandera du temps, c'est pas tellement, mais qu'il y a des endroits prioritaires que l'on puisse traiter. On vous avait d'ailleurs demandé de nous faire passer des listes de lieux qui sont importants, et on avance là-dessus. Les directions territoriales ont été vraiment mobilisées sur ça. Donc, et je pense que c'est un plus pour vous que Mobibus soit intégré à la délégation de services publics et que ça ne soit pas une à côté. C'est pas une DSP à côté au rabais. C'est intégré au système global. Mais c'est un plus d'abord parce que ça permet de mutualiser les moyens à des moments donnés. C'est le même délégataire. Donc c'est plus facile quand on fait de la facturation, quand on fait des appels téléphoniques, s'il faut renforcer le centre d'appel, il est juste à côté le centre d'appel Mobibus que le centre d'appel TBC. Ça permet de renforcer s'il faut venir mettre quelqu'un de plus. Il y a quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas arriver le matin, eh bien on met quelqu'un à côté. Il y a des synergies qui se font grâce à ça. L'entretien du matériel, c'est toute l'équipe technique de TBC qui s'entretient également le matériel. Voilà.
On avait conscience de la patate chaude des délégataires, c'est-à-dire que nous demeurons une part, je dis nous pour le transport adapté, mais il est clair qu'il m'arrive de prendre les transports en commun accompagnés maintenant et j'ai bien l'intention. Mais bon, je dirais nous pour le transport adapté aujourd'hui, nous restons peu intéressants pour le délégataire qui met peu d'efforts. Vous savez que nous n'avons plus de directeur digne de ce nom depuis plusieurs années.
Alors, le fait qu'on soit à l'intérieur de la DSP fait qu'il y a un directeur général de TBC aujourd'hui. Je peux témoigner de son intérêt qu'il a à ce sujet. La personne qui est responsable de Mobibus, pour l'avoir rencontré, Madame Anneau, est vraiment extrêmement compétente sur le sujet. Je crois que tout le monde le reconnaît unanimement, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des progrès à faire, on est d'accord avec vous. Le temps d'attente doit être moins important. Il faut peut-être dégager des moyens, on le fera progressivement. Mais très sincèrement, j'aimerais vous en persuader, le fait que vous soyez intégré à la DSP générale, si je puis dire, est un vrai, vrai, vrai plus pour ça. Je pense qu'à un moment donné, c'est plus important d'être au milieu de la DSP. Voilà. Et je pense que je vous fais confiance pour vous faire entendre et pour faire remonter les choses nécessaires.
Que le fait de ne pas y être intégré provoquerait une plus grande valorisation et estime de Mobibus. Par contre, je ne pense pas que le fait d'y être intégré apporte beaucoup d'intérêt pour notre cas de la part des délégataires. Et c'est ça aussi le souci. Ah, c'est comment, effectivement, essayer d'améliorer cet intérêt, cette écoute, monsieur.
Très honnêtement, hein, je pense qu'ils ont beaucoup plus d'intérêt que vous le pensez. Quel que soit le délégataire, hein, il n'y a pas 50 en France, de toute façon, hein, le marché est quand même extrêmement restreint et il ne va pas se développer, à mon avis. Voilà. Ils ont aussi intérêt à faire en sorte que le public qui prend ce moyen de transport, dont vous l'avez dit tout à l'heure, certains n'ont pas d'autre solution que celle-ci, soyons très clairs. Il n'est pas question de revenir sur ce sujet-là. Tout le monde a intérêt que ça se passe bien. Et les élus, rassurez-vous, ils sont également sensibilisés. Chacun dans nos communes, hein, on a des gens qui n'hésitent pas à venir nous l'expliquer. Et quand on arrive à la communauté urbaine, on nous a expliqué qu'il fallait, s'en occuper. Jusqu'au terme de mon mandat, en tout cas 2014, au moins, je prendrai la mesure de ce qui concerne Mobibus et j'y passerai le temps suffisant et nécessaire pour que les choses s'améliorent encore. Voilà. Allez, une autre question.
Catherine Estienne, je représente l'Association des Paralysés de France. Juste pour aller plus loin et reprendre aussi ce qu'a dit Dominique Elgorski, avec qui nous travaillons dans le cadre du collectif interassociatif. Simplement, ce serait quand même intéressant qu'il y ait une part dans le cadre de la CSPL, qui est vraiment une part pour parler du transport des personnes handicapées. Parce que même s'il y a beaucoup de transversalité, même dans le cadre de la loi 2005, où il y a l'accessibilité pour tous, à tous, etc., il y a un moment, il y a quand même des problématiques spécifiques. Une famille n'a pas la même problématique que quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui n'a pas la même problématique qu'un jeune enfant ou qu'une personne âgée.
Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Moi, je vous dis, il faut qu'à l'intérieur de la CCSPL, ou peut-être qu'un jour, on aura une CCSPL rénovée, hein, où elle sera peut-être plus ouverte, ou je ne sais pas, hein, on peut toujours discuter de ça, mais qu'on ait à un moment donné à la CCSPL à discuter de Mobibus, oui. Et de vos problématiques au sens large d'accessibilité, oui.
À mon avis, monsieur, vous ne vous êtes pas suffisamment exprimé sur l'aspect de ma question. qui concerne l'appropriation du politique des modalités de contrôle. Rappelons que la question que vous nous aviez posée entre délégation de services publics et régie, je pense que la problématique, elle est bien là. Alors, est au niveau du contrôle du politique, du citoyen. Quelles sont les modalités que vous allez mettre en place et qui changent de l'actuel DSP pour que nous, citoyens, etc., etc.
Alors, premièrement, je n'avais pas répondu à ça, vous avez raison. Déjà, cette délégation de services publics actuelle, par rapport à la précédente, les conditions de contrôle sont à des années-lumière. Je vais vous le dire. Hein. Le précédent délégataire avait une chance historique, c'est qu'il avait peu de contrôle de la part, depuis bien longtemps, de la communauté urbaine. Aujourd'hui, grâce à l'inspection générale des services, hein, que notre collectivité s'est dotée il y a plusieurs années, eh bien, il y a un vrai contrôle, et on s'aperçoit aujourd'hui, hein, pour vous dire, le rapport du délégataire et du délégant passé comme une lettre à la poste dans les différents conseils de communauté il y a quelques années, aujourd'hui ça suscite un débat important en CCSPL, en commission et en conseil de communauté. Ça veut bien dire que les élus se l'approprient et s'y intéressent et posent des questions. Bon, d'ailleurs, si on pouvait retrouver, je suis sûr, les documents d'il y a 5 ou 6 ans du rapport du délégataire, il devait être à peu près comme ça. Aujourd'hui, c'est un document comme ça. Donc ça prouve bien qu'on contrôle davantage et qu'on est vraiment présent par rapport à ça. Après, les élus ont confié... donc au service communautaire de le faire, et puis faisons confiance aux différents groupes politiques pour le faire. Votre question, et je le sens bien, c'est quelle place les citoyens peuvent avoir dans le contrôle? C'est ça, en fait, la vraie question. Aujourd'hui, on répond par la CCSPL. On dit aujourd'hui la CCSPL est l'émanation des citoyens au travers des associations par rapport à ce contrôle. C'est pas suffisant. On est bien d'accord. Je pense qu'on n'échappera pas, et ça sera travaillé dans le cahier des charges, on n'échappera pas certainement, dans la future délégation de services publics, à faire la place à un moment donné aux citoyens, aux associations, au travers, alors je ne veux pas employer de terme parce que j'emploie un terme impropre, mais à l'intérieur de ce qui pourrait être... je ne sais pas moi, un conseil ou un comité, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qu'il y ait cette place réservée aux citoyens et une place réservée aux associations, ça me semble aujourd'hui indispensable. Je crois qu'on l'a fait sur l'eau. Alors, ce n'est pas un sujet que j'ai suivi particulièrement avec beaucoup d'attention, je l'avoue, mais ça va se mettre en place sur l'eau. Voilà, l'instance de gouvernance, donc... Puisque la communauté urbaine l'a fait pour l'eau, elle le fera pour les transports. Elle n'est pas non plus à faire des choses différentes. Mais je pense que dans le cahier des charges, on aura tout intérêt, et encore une fois, j'y prendrai ma place, on fera en sorte qu'il y ait une place pour les citoyens et pour, alors, avec un mode de désignation, avec quelque chose qui restera à préciser, hein, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il faut qu'à un moment donné, et pas une fois par an uniquement pour le rapport annuel des comptes, ça va au-delà de ça, hein, qu'il y ait... à travers de la gouvernance, alors c'est un terme très à la mode, gouvernance, hein, je l'avoue bien volontiers, mais à travers la gouvernance, voilà, un comité des usagers ou quelque chose comme ça, voilà, qui puisse à un moment donné donner son avis. Voilà. Et que les élus et le personnel de direction du futur délégataire soient là pour entendre et écouter ce qui est dit au moment de ces avis. Voilà. Et pas qu'une fois par an au moment du bilan. Voilà. Je pense qu'on n'y échappera pas et c'est salutaire.
Merci. Nous avons eu une première série de questions et de retours au niveau notamment du GRU et associatif, avec bien sûr les rebondissements autour du rôle de la CCSPL. C'est très bien ainsi de pouvoir élargir le débat. Est-ce qu'il y a des réactions au niveau du jury des citoyens ou du jury des élus, ou on laisse la parole aux associatifs, parce que vous savez, hein, s'ils la prennent la parole, ils vont la garder. Hein. On connaît un petit peu sur les réunions, donc faut pas hésiter si vous avez envie de vous lancer, en sachant qu'à 20h on a un apéritif de prévu ensemble et que beaucoup d'entre vous doivent partir. Donc voilà. Monsieur Lestinec.
Bon, c'est pas dans mon habitude de monopoliser la parole. Non, mais j'ai entendu le qui était proposé. Ce que je voulais d'abord dire, c'est que ce qui s'est passé avec la question qui a été posée, c'était une expérimentation de concertation qui était intéressante, qui était nouvelle, qui était différente, comme vous l'avez dit, par rapport à la concertation sur l'eau. Et donc ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Et dans le cadre du C2D, on l'a dit et redit, la concertation, ça s'expérimente. Et on peut faire progresser la charte de la concertation sur ces bases. Donc le rendu de ces concertations est aussi une chose importante pour la suite des autres concertations à venir qui vont se développer. La deuxième chose que je voulais indiquer, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a augmenté quand même nos connaissances. Même si on est associatif, si on est censé savoir presque tout savoir, on s'aperçoit qu'on ne sait pas tout, loin de là, parce que les sujets sont complexes. Et notre information a été notamment développée sur les expériences extérieures. Ça, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe ailleurs. Dégager du microcosme bordelais. Ça, c'est important parce que nous, on est pris, j'allais dire, dans cette gang où il y a une part d'histoire. Enfin, il y a diverses strates qui s'accumulent et à la fin, on peut être étouffé là-dedans. Donc, ces expériences extérieures ont été très enrichissantes et elles méritaient d'être données à tout le monde. Parce que même des élus ont appris des choses à l'occasion de ces informations données par ces gestionnaires qui, eux, ont parlé de leur concret, de leur vécu, que ce soit à Toulouse ou dans le sud-est de la France. La quatrième chose que je trouvais importante, c'est se parler avec les parties prenantes, échanger. La concertation, ce n'est pas uniquement dans un sens de l'autorité et en descendant vers le citoyen ou les associations, mais c'est entre soi, entre les divers partenaires. Donc ça a été enrichissant aussi de parler avec des syndicalistes, de parler avec des élus, etc. Donc tout ça, la concertation, c'est aussi se parler entre nous. Hein, c'est de là que jaillit au final la vérité. Enfin, la vérité relative, disons. Ou la lumière, diront certains. Ce que j'ai appris et noté dans cette concertation, c'est le fameux triangle de Martinon. Mais je crois qu'il est applicable sur bien des choses. Alors, pour résumer, pour ceux qui ne le connaissent pas, au sommet, nous avons l'autorité organisatrice, l'autorité, la CUB, celle qui doit assurer le contrôle. D'autre part, on a l'exploitant. Et dans l'autre bout du triangle, il y a le citoyen, l'usager, le contribuable. Alors, dans ce triangle, ce que l'on oublie souvent, ce sont les entreprises. Moi, à mon sens, et surtout dans le domaine du transport, quand on sait que c'est eux qui financent à 50% les transports sur la communauté urbaine, mais sans doute ailleurs, ça doit être à peu près la même chose. La question qui était posée, c'était surtout entre l'autorité organisatrice et l'exploitant. Et la question, c'était faire ou faire faire. Pour moi, c'était aussi simple que ça. Mais ce que disent les associations, ce qui vient d'être dit par d'autres associations, c'est que la relation du citoyen avec l'autorité organisatrice, sur tout ça, quelle est cette relation? Comment on va renforcer cette relation de façon à ce que l'usager, le contribuable, le citoyen puisse s'exprimer auprès de celui qui prend la décision? Les décisions concernant les évolutions de réseau, etc. Les grandes masses, les grandes questions qui se posent. Alors, vous avez cité quelques pistes, hein, comité d'usagers, etc. Pourquoi pas des comités de ligne ou des comités de secteur, hein. Voilà, ces pistes sont ouvertes. Maintenant, j'allais dire, la balle est dans votre camp pour faire en sorte que se développe encore ce lien dans ce triangle sur le côté citoyen, usager, contribuable vers l'autorité organisatrice, parce que les citoyens, ce sont aussi des usagers, des utilisateurs et qui ont l'expérience de l'usage. Merci.
Je n'ai pas grand-chose à rajouter, monsieur Estinec, vous avez eu des paroles tout à fait justes sur un certain nombre de choses, et simplement pour vous dire, les élus qui étaient au comité de suivi ont beaucoup appris aussi. Voilà, je peux vous dire qu'on a beaucoup appris sur les expériences d'ailleurs et même sur ce qui se passait. Voilà, on a digéré tout ça, donc voilà, tout le monde a beaucoup appris et c'est important.
Bonsoir, Je suis Muriel Sola, chargée de mission de l'association Vélocité, donc présente dans le panel association, même si j'étais pas là que pour parler vélo, mais c'est vrai que la question des transports est de toute façon transversale, donc ça nous interrogeait beaucoup aussi. C'est vrai que nous, on a beaucoup apprécié de participer à la concertation. J'en ai parlé avec d'autres associations vélo, puisqu'on appartient à un réseau national qui s'appelle la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Et on a d'autres associations quasiment aussi importantes que la nôtre, qui sont sous convention avec leur agglomération, comme nous, on l'est avec la CUB. Donc c'est vrai que j'ai interrogé ces collègues associatifs pour savoir comment eux pouvaient... étaient peut-être déjà intervenus dans ce genre de concertation, et a priori, ça n'a pas réellement été le cas. On a été, nous, donc, assez contents de faire savoir via notre réseau qu'on avait eu la chance de pouvoir discuter de façon très avancée sur cette question de la DSP. Donc c'est vrai que, puisque après, c'est vrai que nous, on est très investis dans les questions V-Cube, aménagement cyclable, connexe au tram, enfin toutes ces petites choses importantes. Donc c'est vrai qu'on a pu faire briller un petit peu ce qu'on sait faire dans le coin. Maintenant, je vais passer, après les félicitations, à une petite question qui pique un petit peu. C'est que, il fallait bien que ça arrive, durant le déroulement de la concertation, on a découvert par hasard que le panel citoyen, si je ne m'abuse, était rétribué pour sa présence. Même si sur le principe, quelque part, c'est pas forcément choquant, je voulais juste rappeler que le panel association était présent sur un temps pour quasiment tous bénévoles, sauf moi, la grande chanceuse. Je suis salariée de l'association, je récupérais mes heures, mais juste pour dire que c'est vrai que penser à gratifier peut-être un peu les associations, en leur faisant peut-être même la surprise à la fin de la concertation, je ne sais pas, mais parce que ces gens-là sont... Ah, et ces gens-là sont des citoyens investis, militants, qui ont décidé de prendre sur leur temps personnel et sur leur temps de travail, parfois, pour venir quand même porter la parole des usagers. Donc ça me semblait important de soulever ce point-là, même si, j'avoue, je n'ai pas de solution, je ne sais pas quel est le mieux. Est-ce qu'il faut que tout le monde soit présent bénévolement ou tout le monde rétribué d'une certaine façon ou remercié avec moult cadeaux, tickets resto, je ne sais pas. Mais c'est une question, enfin nous, ça nous a un peu chiffonné. Parce qu'on était là de façon honnête, sincère, désintéressée, mais par contre très militante. Et c'est vrai qu'on s'est senti un peu dépossédé quand on a découvert ça, parce qu'on s'est dit, bon, ben, alors le panel citoyen, ils étaient là pour quoi ? Certes, ils ont donné leur parole, on l'a entendu, on a pu confronter comme ça nos points de vue, c'était très très intéressant, mais il y avait toujours ce petit sentiment de biaisé à cause de cette histoire de rétribution. Alors, je me suis permise, suite à la concertation, d'envoyer un petit mail auquel je n'ai pas eu de réponse. Mais ce n'est pas, c'était pas une mise en accusation de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça nous a quand même chiffonné un petit peu. Il faudrait, je pense, pour les prochaines concertations, réfléchir à ça. Puisque même si, je vous dis, les associatifs sont des gens militants qui ont décidé de prendre sur leur temps, ça reste du temps qu'ils ne donnent pas à leur famille, à leurs loisirs personnels. C'est un investissement qui se fait quand même pour la société et qui sert finalement à beaucoup de monde. Voilà.
Alors, à répondre à la question. D'abord, qu'à un moment donné, on puisse donner une rétribution aux citoyens qui viennent, alors qu'ils ne se sont pas engagés dans une association, et pas fortement choquant. Voilà. On dit aux gens, venez plusieurs samedis, passez du temps à la communauté urbaine. Voilà. Moi, je suis pas choqué qu'à un moment donné, on puisse leur donner une rétribution. Voilà. C'est le montant qui pose peut-être problème, mais bon, voilà. C'est peut-être le montant. Alors, bon, contact, comme on l'a dit, on pourra toujours être perfectible. Par rapport aux associations, moi, je suis un petit peu plus mesuré. J'ai une vision idéaliste du monde associatif. Quand on rentre dans une association, on sait pertinemment, et qu'elle soit sportive, culturelle, sociale ou autre, on sait qu'on n'y va pas pour gagner de l'argent, et on y va surtout pour y consacrer beaucoup de temps, et par expérience personnelle, sacrifier quelquefois de la vie de famille, parce que c'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les gens restent peu de temps à des responsabilités dans des associations, parce que ça bouffe le temps et que c'est ça. Bon. Donc, j'ai cette vision un peu idéale de me dire, tiens, c'était une occasion peut-être historique de venir apporter sa pierre à l'édifice, de quelque chose d'un peu nouveau. Allez, ça allait peut-être le coup bon, de sacrifier 3 ou 4 samedis de venir. Mais aussi, soyons honnêtes et disons les choses jusqu'au bout, les associations retenues sont, et j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je pense que toutes, rétribuées par la communauté urbaine pour leur participation à la CCSPL. Ceux qui étaient à la CCSPL reçoivent une subvention de la communauté urbaine pour leur participation à la CCSPL. Et là, c'est pas 3-4 samedis dans l'année, c'est plusieurs fois, puisque la CCSPL se réunit quand même plusieurs fois sur divers sujets. Bon. Voilà. Je dirais que là, il y a aussi... allez, on va se dire, c'est du donnant-donnant, quoi. On vous demande d'en faire un petit peu plus pour que vous puissiez assister. Voilà. Bon. Alors... si le débat vraiment se pose, ben on verra si le C2D aura réglé ça en faisant peut-être des propositions. Mais écoutez, très franchement, ça c'est tous les 5 ans ou tous les 8 ans. Donc c'est quand même pas tous les ans. Ça revient pas de manière aussi importante. On peut toujours dans une association trouver quelqu'un qui vient pour passer un petit peu de temps. Voilà, moi j'ai envie de dire que ça me paraissait... normal de venir comme ça. Alors après, vous allez me dire, oui, parce que ça vous arrange. Non, moi, j'étais dans le secteur associatif. J'ai pas compté mes soirées et mon temps que j'ai passé. Tant mieux. Et je vous dis, honnêtement, je le regrette pas. Parce qu'humainement, ça apporte des choses qui sont irremplaçables. Maintenant, il faudra revoir par rapport au jury citoyen si on a une rémunération que je qualifierais de raisonnable. Voilà. On peut pas ne rien donner, mais il faut que ça soit raisonnable.
Oui, juste un mot là-dessus, je crois que vous avez raison de poser la question, puis ça montre que finalement, bon, on s'est posé beaucoup de questions avant de faire le dispositif, et celle-ci, on l'a peut-être pas posée pleinement, puisque là, on voit bien qu'il y a des associations qui, en étant dans la CCSPL, ont cette indemnisation qui est liée à ce rôle dans la CCSPL. En même temps, là, elles étaient là dans la concertation, dans un rôle différent, et il y en a d'autres qui ont participé, qui n'en font pas partie, qui d'ailleurs souhaitent maintenant y avoir une place. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour les prochaines fois, on va rebalayer. Donc il y a eu une réflexion qui a commencé à l'intérieur de la direction de développement durable et participation, et je crois que finalement, c'est aussi en tout cas pour la participation citoyenne, c'est certainement quand même le C2D qui peut nous apporter des éclairages sur cette question-là, parce que d'une façon ou d'une autre, si on veut que les citoyens puissent participer, ça suppose une forme d'anonymisation. Là, on avait peut-être un problème spécifique qui était que dans l'urgence un petit peu du calendrier, du recrutement, etc., on a peut-être été dans un cadre et donc à des niveaux d'anonymisation qui était plus lié à l'urgence de la situation, au type de marché qu'on avait, le prestataire qui pouvait nous proposer ce niveau-là, qu'une réflexion vraiment mûrie sur quel est le bon montant pour une participation aussi lourde. Voilà. Donc, ce point de vue-là, vous avez raison. Oui, je pensais qu'il était déjà saisi, c'est pour ça que j'en parlais. Je pensais que le C2D était déjà saisi sur cette question de la rémunération. Donc, il va... être saisi. Voilà, donc c'est un effet d'annonce pour le centre. Donc il est saisi à l'instant sur cette question-là. Voilà. Voilà. Oui, puisque vous récoltez du travail en plus. Et...
monsieur, la parole au C2D pour le coup, puisque je crois que...
donc, Winston Brickman du C2D, puisque vous avez parlé d'urgence... et vous avez parlé aussi de calendrier serré, mais qui s'impose. Pour nous, c'est quand même un vrai problème. On nous impose, on nous met toujours en avant l'urgence. C'est-à-dire que les dispositifs qu'on peut mettre en place en termes de participation sont toujours un petit peu problématiques parce qu'on n'a pas assez de temps. Et les différentes équipes qu'on a vues passer, qui mettaient en place cette participation, nous ont toujours dit, comprenez, nous, on fait ce qu'on peut, mais le temps est trop court. Alors, est-ce que on pourrait... un jour, ne plus se voir opposer l'urgence. Voilà.
Alors, on est un peu des débutants sur ce domaine-là. On apprend. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 5 ans, ça arrive vite dans le cadre d'une DSP. On vient d'en faire une il n'y a pas longtemps. Il faut se relancer parce que c'est des processus longs. Parce que là, c'est la partie immergée de l'iceberg. Maintenant, on a toute la procédure administrative qui va nous conduire au renouvellement de la DSP. Donc, c'est long, ça demande du temps. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément les automatismes pour lancer la concertation suffisamment tôt parce que c'était pas quelque chose qui, à un moment donné, allait de soi. Aujourd'hui, maintenant, on est plus rentré dans quelque chose qui sera automatique, qui viendra en lancement bien plus tôt. On vous opposera peut-être pas, j'espère, du temps. Ma petite expérience d'élu depuis 1995 montre que j'ai toujours pensé que le mandat futur, on aurait un peu plus de temps, et je me suis aperçu qu'on est toujours à courir après le temps. Donc voilà, donc j'espère que ça s'améliorera, mais voilà, on est toujours des choses qui sont faites dans l'urgence, et que malheureusement, c'est un peu le monde d'aujourd'hui, si je puis dire, qui a ce défaut-là. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, cet automatisme sera pris, et on s'y prendra plus tôt, parce que je reconnais très volontiers que le calendrier était plus que serré.
Voilà. Oui, vous avez
chacun a dû faire des efforts sur son emploi du temps pour honorer l'intégralité des réunions qu'il y avait. C'est vrai qu'on voilà, on fera mieux, pas de doute.
Juste pour compléter, donc Fabienne Brugère, présidente du C2D, pour compléter ce que disait Winston, on retient votre proposition, et je crois qu'effectivement le C2D peut travailler en ce sens.
Merci. Sur le temps, nous avons, au niveau de la CUB, organisé aussi une rencontre avec les garants de la concertation, qui ne sont pas avec nous ce soir physiquement, mais qui doivent certainement penser à nous. Voilà, moralement, ils sont avec nous. Donc, on a eu une rencontre aussi avec eux, un débriefing pour voir un petit peu quel était ressenti. Sur cette notion du temps, ils nous ont dit toute la sagesse que nous aurions à réfléchir à la forme de la participation pour les associations et les élus qui sont dans une fonction de représentation et pour qui ça peut poser problème finalement d'être là intuitu personae et de ne pas pouvoir rendre compte à son association ou à son groupe dans le cadre du fonctionnement démocratique par exemple d'une association avec les réunions de bureaux, de conseil d'administration. Donc un temps court qui ne permettait pas ces allers-retours, qui auraient été idéalement, donc peut-être imaginer d'autres formes, et dans le même temps, un temps qui n'aurait peut-être pas été assez long pour les membres du jury citoyen, long dans le sens où de prendre d'autres temps, de faire plus de repas ensemble, peut-être une soirée, d'avoir... des temps un peu informels qui puissent permettre de tisser des liens, avoir un peu de convivialité et de travailler autrement sur le groupe. Voilà, je voulais vous faire part de ces étonnements, enfin c'est rapporter ces propos. Je ne sais pas s'il y a vous souhaitez réagir là-dessus ou sur ouvrir d'autres sujets qui n'ont pas été abordés.
Enfin, j'en sais rien, c'était le dernier, mais si vous voulez, ce qu'on s'est posé aussi comme question, alors c'est 2D, hein, ce qu'on s'est posé aussi comme question, c'était justement la question, la formulation de la question. La formulation de la question nous a semblé excessivement complexe. Le jury citoyen, je crois, a essayé d'être bon élève, donc il s'est emmêlé les pinceaux dans la question. Hein. Les associatifs en ont fait un peu ce qu'ils voulaient, les politiques, je ne sais pas trop. Enfin, c'est-à-dire qu'au bout du compte, vous avez un magnifique tableau qui ne répond à trois questions différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on s'est dit que ça serait peut-être intéressant qu'on soit associé à la formulation des questions aussi, en termes de C2D.
Alors, je vais vous dire, c'est les politiques qui ont choisi la question, donc on ne va pas se dérober. Je pense que si on avait posé une question, ce dont vous imaginez, êtes-vous pour ou contre la régie, pour ou contre la DSP, la réponse eût été beaucoup plus rapide et beaucoup plus concise, et il aurait donné lieu à beaucoup moins de réflexion par rapport au sujet. Donc le choix a été de justement ouvrir, en ne répondant pas fondamentalement à cette question, et c'était plutôt d'ouvrir et de dire quels sont les critères, parce que je peux vous dire que si on avait posé une question très simple, on n'aurait pas eu ça. Oui, qui était là tout à l'heure. On n'aurait pas eu le tableau avec les 20 critères, ça c'est sûr, parce qu'on aurait eu oui, non, ou on aurait eu des débats beaucoup plus frontaux, quelque part. Hein. Voilà, ça aurait été beaucoup plus... voilà. Donc c'est le choix qui a été fait. Moi, je le regrette pas, parce que finalement, allez, on va se dire quand même qu'au bout du compte, c'est le conseil de communauté qui a à répondre à la question, quoi. Hein. Voilà, c'est ainsi le président aussi. C'est ça la question, la vraie chose. C'est eux qui ont à répondre à la question. Maintenant, moi je vous le dis très clairement, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le même débat, qu'on aurait eu les mêmes choses si ça avait été beaucoup plus clair. Sachant qu'on ne va pas se raconter d'histoire non plus, même si ce n'était pas la question posée, dans le rendu qu'il y a eu le fameux samedi du mois de mars dans la jolie salle du conseil de communauté. La question auxquelles vous faites allusion, beaucoup y ont répondu, même sans y être invités à y répondre. Donc, vous voyez, comme quelque part, les choses se sont faites aussi naturellement.
Moi, je me pose la question, pourquoi justement on ne pouvait pas avoir ce qui se passe dans les autres villes, à savoir des comparaisons de les villes qui ont adopté la délégation de services publics, les villes qui ont adopté la régie, quels étaient les avantages, quels étaient les inconvénients, comment on aurait dû avoir des exemples. C'est pas exactement ce qu'on
Toulouse a... est venu oui, Toulouse, présenter ce qu'était la régie. Il y a eu un exemple de DSP. Il y a eu. Oui, je crois que la régie a été plus élaborée. Voilà.
On a eu Toulouse. On aurait pu avoir beaucoup plus d'exemples.
Ah, je pense que Toulouse est quand même symbolique, quoi. Enfin, ils étaient un peu dans notre situation. Ils étaient en DSP il y a quelques années. Ils sont passés en syndicat et puis ensuite en régie. Je crois qu'ils ont eu un vrai cheminement, Toulouse. Hein. Alors. Moi, j'étais pas présent, mais ce qu'on m'a dit, c'est que la prestation n'a pas été extraordinaire, mais ça, après, c'est en fonction des gens qui sont venus, mais c'était symbolique quand même, je pense, Toulouse, en termes de chance. Voilà, et même très, c'est vrai, Laure a raison, très honnêtement,
Le jury d'élus avait même tellement, quelque part, le sentiment qu'il y avait plutôt eu des éléments en faveur de la régie, que je crois vous avez demandé que spécifiquement que du coup il y ait des éléments en faveur de la DSP. Il y avait aussi la question de la SPL. Là, je parle du jury des élus. Hein. Donc, je ne sais pas pour les autres jurys, je ne me souviens plus exactement ce qu'il y avait dans le rapport, mais de ce point de vue-là, voilà, je ne crois pas qu'il y avait vraiment de volonté de biaiser. Que certains formateurs ou intervenants aient été plus ou moins clairs ou efficaces sur ces questions. Bon, on avait essayé de prendre des garanties dans le choix des formateurs.
Hein. Bien, merci. Peut-être avant de vous redonner la parole, Monsieur Duprat et Madame Curval, pour la clôture et l'invitation à l'apéritif, je vais donner la parole à Christophe. Au fond de la salle, qui a animé, et voilà, faut le réveiller un petit peu, je crois, pour nous donner son point de vue, donc assistance à maîtrise d'ouvrage. Merci.
Ouais, bonsoir. C'est redoutable, juste avant l'apéro, de donner la parole à quelqu'un, il part avec un handicap assez sérieux. Juste quelques mots, parce que je m'excuse, je suis arrivé en retard, mais les questions qui ont été soulevées là sont les questions qu'on entend dans beaucoup de processus, la question du temps. Bon, pourquoi on n'a pas eu plus de temps, etc. La question. Est-ce que c'était assez clair? Est-ce que le mandat qui avait été donné était suffisamment clair pour mettre les gens en production, pour pas, en gros, passer deux week-ends à tourner autour de la question, savoir est-ce que on est bon. Ces éléments-là, on les a toujours. Ce que moi je retiens là surtout, c'est que c'est l'ambition quelque part du dispositif qui était d'essayer. De mettre les gens au sens large, les élus, les associations et les citoyens, réfléchir, non pas sur un objet, mais sur un principe. Est-ce qu'on délègue notre transport? Est-ce qu'on délègue ou pas un service public? Et ça, c'est compliqué. Déjà, quand on est sur un objet, quand on est sur un pont, c'est déjà pas simple, mais c'est un objet et tout le monde se projette, quoi. Là, c'est autre chose, quoi. C'est un principe de bonne administration, c'est plus compliqué. Et puis, le dernier élément, et puis je vais m'arrêter là. C'est qu'on est bien, et ça a été dit par quelqu'un du C2D, c'est qu'on est bien sur du pilote. C'est-à-dire qu'en gros, on a testé quelque chose. Et nous, quand on a vu ce principe-là, on s'est dit, ça va être compliqué. Non pas parce que au niveau de l'animation, ça va être compliqué, mais les gens, les trois jurys avaient des statuts différents. C'est-à-dire, en gros, des citoyens, c'est normal de les solliciter, de leur demander un point de vue en tant que citoyen pour qu'ils conseillent des élus. Mais quand les élus sont censés faire le même exercice pour conseiller des élus, d'un point de vue démocratique, c'est déjà plus compliqué, quoi. Donc, c'était un système très original, pilote, et je crois que l'intérêt où faut pas se rater maintenant, c'est capitaliser, en tirer les enseignements, et puis rebondir et avancer. J'ai entendu là une réflexion sur la rémunération des citoyens. On a toujours ça dans nos panels. D'évidence, ce qu'on demande à des citoyens, c'est de produire une expertise citoyenne. Bah, quand on sollicite un expert, on le paye, donc le citoyen, je suis pas choqué non plus.
Bien, merci Christophe. Ces quelques mots, Monsieur Duprat.
Oui, tout simplement pour conclure, pour dire que l'histoire va pas s'arrêter
peut-être,
là.
Pardon, excusez-moi. Il y a une réaction.
Oui.
Excusez-moi. Du jury citoyen, donc je ne peux faire autrement que de passer le micro.
Bonjour, donc je m'appelle Sarah et donc je suis étudiante, je faisais partie du jury citoyen et donc je prends la parole pour relever le niveau puisque on n'a pas trop parlé. Et donc je voulais un peu réagir aussi par rapport sur ce fameux thème de la rémunération, à dire que certes c'était vrai, mais que quand même tout le monde a pris du temps pour réfléchir, pour donner un avis. On nous avait bien appelé les profanes, on savait rien du tout. On connaissait rien du tout, on est venu, on nous a donné un paquet d'infos et il fallait vraiment tout analyser. On a rencontré un juriste, enfin voilà, on a eu vraiment des gens qui étaient quand même calés dans leur métier et pour nous, c'était pas trop évident d'avoir énormément d'informations et d'essayer de donner un avis. Donc on a quand même travaillé. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, je pense que mes camarades de panel, c'est la même chose. Et surtout pour dire personnellement que moi, donc cette expérience, ça a été du positif. J'avais jamais fait ça auparavant. Je trouve que c'est quelque chose de bien. Voilà, je trouve que c'est positif. Je suis simple étudiante, j'ai 21 ans, et c'est vrai que ça n'a pas été évident pour moi personnellement d'être devant des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, investis plus dans la vie que moi. Et on a quand même eu tous du mal parce que, au final, dans ce panel, on était un peu tous là pour défendre son pain. Les associations, c'était plus facile d'un côté parce qu'on est là pour défendre des idées. Voilà, tandis que nous, on nous a demandé chacun de donner notre avis et j'ai pas les mêmes besoins que quelqu'un qui est chef d'entreprise ou salarié ou chômeur. Donc, on a beaucoup travaillé. Faut pas dire qu'on était là rien que pour rien faire. Et voilà, donc c'était tout ce que je voulais dire. C'est tout.
Merci de cet optimisme, mademoiselle. Voilà, c'est très bien, ça conclut bien cette réunion. Alors, je voulais dire que l'histoire va pas s'arrêter là. Je pense qu'il est important qu'on ait à un ou deux moments peut-être l'occasion de se recroiser pour vous tenir au courant de comment les choses se passent, même si la loi Sapin très concrètement encadre maintenant notre processus de manière peu, avec peu de marge de manœuvre, hein. Le cahier des charges, il doit être élaboré par la communauté urbaine, on le donne à ceux qui sont les légataires, après les réunions sont très encadrées, les marges de manœuvre sont très faibles, mais quand même je pense qu'il serait intéressant que, puisque vous avez quand même produit un travail assez conséquent, vous y avez passé du temps, et bien qu'on ait à une ou deux reprises, on verra le moment venu, l'occasion de se revoir pour voir au moins au final ce que ça a donné avec le délégataire qui sera choisi, voilà, et puis avant peut-être, je sais pas, on regardera comment administrativement les choses peuvent se faire, mais on garde le contact, si je puis dire, on se dit ça quand on a fini une réunion, on garde le contact, mais là on aura l'occasion de se recroiser, en tout cas au nom du conseil de communauté, du président et du personnel de la communauté urbaine, soyez assurés de notre gratitude par rapport à l'engagement qui fut le vôtre pendant plusieurs journées, et sachez qu'il en restera quelque chose. Merci beaucoup.
Je ne vais pas vous en garder, hein. Et on ne peut pas en garder.